Radio Prague, les informations.
La Chambre des députés veut décider de la politique énergétique. L'ancien président Václav Havel va mieux. La visite du prince Charles en République tchèque est confirmée. Et Jeux Olympiques, Jaromír Jágr, porte-drapeau de l'équipe nationale. Bonsoir. Les députés tchèques n'ont abordé qu'un point pendant la session extraordinaire sollicitée par le Parti social-démocrate ce jeudi. Ils ont débattu en deuxième lecture d'une proposition des sociaux-démocrates selon laquelle la politique énergétique nationale ne devrait pas être décidée par le gouvernement mais par la Chambre des députés. Le projet a été soutenu par une majorité de parlementaires et il devrait être soumis au vote dans les jours qui viennent. Cette proposition, selon les sociaux-démocrates, permettrait d'assurer à la République tchèque une plus grande sécurité énergétique. Dans le cadre du sommet européen de ce jeudi, le Premier ministre Jan Fischer a déclaré que l'Union européenne se devait d'aider la Grèce qui se trouve actuellement dans une grave situation de déficit public. Jan Fischer a ajouté que la forme finale du plan de sauvetage dépendra de la décision du chef du groupe euro, Jean-Claude Juncker, et du chef de la Banque européenne, Jean-Claude Trichet. Bien que la République tchèque n'appartienne pas à la zone euro, elle est d'accord avec l'Allemagne et la France pour une aide européenne. D'autres membres de l'UE, comme le Royaume-Uni ou la Suède, préfèrent que l'aide à la Grèce provienne du Fonds monétaire international. L'ancien président de la République, Václav Havel, va mieux. Atteint d'une inflammation des voies respiratoires, il avait annulé lundi son programme de la semaine. Les médecins lui avaient prescrit des antibiotiques. Václav Havel se sent mieux, mais il doit continuer sa période de convalescence et rester à la maison la semaine prochaine encore, a indiqué à la presse sa secrétaire Sabina Tančevová. Chaque maladie respiratoire est dangereuse pour l'ancien président. Suite à un cancer, les médecins lui avaient retiré la moitié d'un poumon. L'ambassade britannique a confirmé la visite du prince Charles et de sa femme Camilla en République tchèque. Entre le 15 et le 23 mars, le couple se rendra également en Pologne et en Hongrie. Le voyage se concentrera sur la protection de l'héritage culturel et naturel de ces trois pays centre-européens. Le prince Charles passera une journée à Brno pour prendre part à une discussion avec des étudiants sur le développement durable. L'ambassadeur britannique Sean MacLeod estime que cette visite renforcera les liens entre Londres et Prague. Ce sera la cinquième visite du prince Charles en République tchèque. La première était en 1991, accompagnée de sa première femme, la feu Lady Diana. La dernière avait eu lieu en 2004. Le prince Charles avait visité des sites du patrimoine national que la Fondation Havel aide à rénover. La Poste tchèque a décidé de promouvoir la participation tchèque à l'exposition universelle Expo 2010 qui débutera au printemps prochain à Shanghai en éditant un timbre-poste d'une valeur nominale de 35 couronnes tchèques. Ses couleurs répondent à celles du logo de l'exposition. Le dessin du timbre, qui est l'œuvre d'Aleš Najbrt et de Peter Stepan, montre le pavillon tchèque tel qu'il sera présenté en Chine. Ce dernier veut représenter la République tchèque comme un état moderne du troisième millénaire au carrefour des cultures, de nations et des idées. L'international tunisien Tijani Belaïd, qui joue avec le Slavia Prague depuis 2007, devrait être prêté au club de Mladá Boleslav jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant de 22 ans, pour qui les pourparlers avec le club français du Mans ou le club espagnol de Malaga n'ont rien donné, terminera probablement cette saison en jouant dans la Ligue tchèque. Et c'est le champion de hockey sur glace Jaromír Jágr qui sera le porte-drapeau de la délégation tchèque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Vancouver, a annoncé ce jeudi le chef de l'équipe tchèque. František Dvořák. Le joueur de hockey tchèque est presque une légende de la NHL, la ligue de hockey nord-américaine. Lors des derniers Jeux Olympiques, c'est la patineuse de vitesse Martina Sablikova qui était le porte-drapeau. Et enfin, on termine avec la météo. Vendredi, des chutes de neige sont attendues sur la majeure partie du territoire. Relativement modérées en Bohême et en Moravie du Nord, elles devraient être beaucoup plus abondantes dans le sud de la Moravie. Les températures se situeront entre moins 5 et moins 1 degré et nous fêterons les Slavina. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Velure.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Les archéologues cherchent la dépouille de Sainte Agnès dans l'église Saint-Gall à Prague. L'espace d'art contemporain DOX à Holešovice propose parmi ses expositions celle du peintre František Matoušek. Le fondeur Lukáš Bauer, qui représente les meilleures chances de victoire tchèque aux Jeux Olympiques de Vancouver, espère s'imposer dans l'épreuve reine du ski de fond, le 50 km. Tels sont les thèmes dont nous allons vous entretenir dans ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Depuis des siècles, un mystère plane sur le lieu du dernier repos de Sainte Agnès de Bohême. Nous ne savons pas où la sainte a été enterrée. Cependant, depuis quelque temps, les archéologues suivent une nouvelle piste qui semble prometteuse. Les recherches se concentrent maintenant sur l'église Saint-Hachtal, Saint-Gall, dans le centre historique de Prague. Sainte Agnès, princesse Přemyslide, qui a vécu entre 1205 et 1282, était la fille du roi Otakar Ier, fondatrice de l'ordre des chevaliers de la Croix à l'étoile rouge, d'une abbaye franciscaine, d'un couvent de Clarisses et du premier hôpital de Prague. Elle a été vénérée par le peuple comme une sainte longtemps avant sa canonisation tardive en 2009. Après sa mort, elle a été inhumée dans le couvent qui porte son nom, mais aujourd'hui son tombeau est vide. Selon une hypothèse, sa dépouille aurait été transférée pendant les guerres hussites dans l'église Saint-Gall, située à une centaine de pas du couvent. Les examens au géodarare effectués dans cette église ont encore ravivé les espoirs des archéologues. L'un d'eux, Leo Vrzal, explique. C'est par une méthode comparative que nous avons vérifié les premiers résultats des examens au radar et nous avons vraiment constaté la présence, 30 ou 40 cm en dessous du pavé original de l'église, d'une dalle d'une longueur de 170 cm, d'une largeur de 100 cm et d'une épaisseur de 15 cm, ce qui correspond à une dalle funéraire. Selon Leo Vrzal, c'est donc sous cette dalle, dans la partie gauche de la nef de l'église, que pourrait se trouver une châsse contenant la crosse et même les reliques de l'abbesse. L'endroit qui se trouve sous la partie gauche de l'estrade de l'autel est très intéressant. Quand je discutais de cette possibilité avec mes amis, les meilleurs géophysiciens de Russie, ils m'ont dit que l'endroit méritait une fouille archéologique et qu'eux-mêmes, en utilisant la même méthode, avaient retrouvé dans une église russe la dépouille de Pierre le Grand.
Obdobným způsobem nalezli ostatky v ruském chrámě, ostatky Petra Velikého.
Le cardinal Miloslav Vlk Prima de l'église catholique tchèque se montre plutôt sceptique face à toutes ces hypothèses. Il n'en veut pas moins assister à l'ouverture du tombeau présumé de Sainte Agnès auquel les archéologues envisagent de procéder au cours de la semaine prochaine. La réserve du cardinal est partagée aussi par une partie des spécialistes qui déplorent l'absence de documents historiques sur le transfert de la dépouille de la sainte. L'espace d'art contemporain DOX à Holešovice propose parmi ses expositions celle du peintre František Matoušek. Ces toiles un peu particulières par le support qu'elles utilisent sont à voir dans ce lieu jusqu'au 15 mars prochain. Anna Kubišta a rencontré František Matoušek.
Intitulée de Nîmes, l'exposition n'a pourtant absolument rien à voir avec cette ville du sud de la France. Si František Matoušek a choisi ce titre pour son exposition, c'est uniquement une allusion au matériau original qu'il utilise comme support de ses peintures. En effet, František Matoušek peint sur de la toile de jean, également appelée toile de Nîmes.
Tak denim vlastně dostal název podle místa ve Francii.
Le mot denim vient de la ville de Nîmes en France, d'où le tissu provenait et était autrefois exporté vers le reste du monde. Il y a aussi d'autres mots pour caractériser ce tissu. Le mot jeans viendrait de la ville de Gênes en Italie. Et puis il y a le mot riflovina, qui s'utilisait quand j'étais petit en Moravie, riflet, qui doit venir de rifle en anglais.
Un support spécial, donc, que František Matoušek utilise depuis le milieu des années 90 et qui revêt pour lui un sens symbolique.
Ce qui est important, c'est que ce tissu, le jean, a pour moi des significations différentes. C'est lié au fait de grandir dans la Tchécoslovaquie communiste. Les jeans étaient pour moi un symbole de l'Amérique, de liberté. C'était presque totalement interdit. En tout cas, ça l'était dans mon école. A fortiori, les jeans déchirés. Je dis presque totalement interdit. Ça n'était pas vraiment, mais c'est surtout qu'il ne valait mieux pas en porter. D'ailleurs, c'était quasiment impossible à acheter si vous n'aviez pas de bons spéciaux. Pour moi, c'était aussi lié à tous les groupes de musique que j'écoutais et qui étaient interdits.
Ces aspirations à la liberté, on les retrouve dans Étoiles de New York, une ville qui fascine évidemment František Matoušek. Matoušek y utilise par endroits la trame du jean, certains de ses fils blancs pour les contours verticaux des buildings. Des fils pas toujours droits, qui donnent à certains tableaux une impression de légère vibration ou comme si le regard était un peu brouillé. Si František Matoušek peint sur la plupart de ses toiles, il utilise également la trame du tissu brut pour composer des portraits en bleu et blanc, juste en tirant les fils, comme une sorte de tapisserie, un gobelin à l'envers. Malgré l'intérêt technique de ses portraits, ce ne sont finalement pas ses œuvres les plus intéressantes. Celles peintes sur les fibres du plus célèbre des tissus, qu'il s'agisse de New York ou de ses paysages, ont une profondeur qui fait défaut au portrait. Toile en jean ou pas, la peinture de Matoušek est classique dans le sens le plus noble du terme.
Non, třeba chodím malovat do přírody.
Je peins également dans la nature, ça se voit sur certains de mes tableaux. Ils ont été faits en plein air. À chaque fois, je pense avec affection aux impressionnistes français, à Pissarro, à Cézanne, comme ils partaient dans la nature avec tout leur matériel. Même quand ils avaient 50 ou 60 ans, ils devaient passer pour des espèces d'originaux auprès des gens.
Une chose est sûre, il faut voir les peintures de František Matoušek en vrai. Ce qui est valable pour tout tableau l'est a fortiori d'autant plus pour cet artiste, car en reproduction sur catalogue ou internet, ses toiles perdent évidemment tout le relief et la plasticité qui en forment le caractère. On ne saurait donc trop recommander un tour au Dox avant le 15 mars.
Avec la patineuse de vitesse Martina Sablikova, le fondeur Lukáš Bauer représente les meilleures chances de victoire tchèque aux Jeux Olympiques de Vancouver. Jusqu'à présent toujours placé, mais jamais vainqueur dans les grands rendez-vous que sont les Jeux Olympiques ou les Mondiaux, le Tchèque entend bien cette fois s'imposer, notamment dans l'épreuve reine du ski de fond, le 50 km. Guillaume Narguet.
En sélectionnant 92 sportives, dont 13 des 15 disciplines inscrites au programme des Jeux d'hiver, le comité olympique tchèque envoie une délégation record à Vancouver. Mais cette équipe de République tchèque ne devrait pas battre un record seulement en termes de quantité, mais aussi de qualité. Le président du comité olympique a beau affirmer qu'il sera satisfait avec un bilan final de 4 médailles, identique à celui de Turin il y a 4 ans. Les perspectives de succès sont plus nombreuses. Outre la patineuse de vitesse, Martina Sablikova, qui a écrasé la concurrence sur les longues distances ces dernières saisons, et de laquelle 2 médailles, dont au moins une d'or, sont attendues, un des autres principaux prétendants à un, voire plusieurs podiums, et le fondeur Lukáš Bauer. Vainqueur du dernier tour de ski en juin, le Tchèque a orienté toute la préparation de sa saison sur un seul et unique objectif, les Jeux Olympiques, avec un slogan à l'esprit, en route vers l'or. Lukáš Bauer explique pourquoi.
50 km klasicky s hromadným startem je jak v očích mých, tak i očí mého okolí.
Le 50 km style classique, départ groupé et à mesure la course où j'ai théoriquement le plus de chances de gagner. Mais je suis convaincu que si je suis en forme et en bonne santé, je peux également être dangereux sur les autres distances, à l'exception des épreuves de sprint auxquelles je ne participerai même pas. Cela explique mon slogan « En route vers l'or ». Jusqu'à présent, dans toute ma carrière, je n'ai jamais obtenu mieux que des médailles d'argent, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Alors, même si toute médaille me ferait de nouveau plaisir, j'aime les grands défis, ce qui veut dire remporter l'or.
Samozřejmě, já mám rád vysoké výzvy a to je ta zlatá medaile.
À Turin en 2006, Lukas Bauer s'était classé deuxième du 15 km classique, sa distance et son style de prédilection. Une performance qu'il avait également rééditée la saison dernière aux Mondiaux de Liberec en style libre. Cette fois, le Tchèque, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2007-2008, entend donc bien ne plus finir au pied de la plus haute marche du podium et rejoindre Kateřina Neumannová, sacrée en 2006 sur le 30 km.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé par la section française de Radio Prague. Mais ce n'est pas tout, ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
Miroir de la société à la lumière de la presse. Alena Gebertova.
La plus grande erreur de Joachim Barrande, tel est le titre d'un article paru dans la dernière édition du supplément du quotidien économique Hospodarské noviny, et dans lequel son auteur revient sur certains aspects de la vie et de l'œuvre du grand paléontologue français qui s'est rendu célèbre notamment par les découvertes qu'il a faites à Prague. Nous vous en présenterons quelques extraits. Nous avons lu également pour vous, dans un autre journal, une interview avec l'ex-président tchèque Václav Havel. Joachim Barrande est certes un des Français les plus connus et les plus admirés des Tchèques, tant pour ses travaux qu'il a réalisés en pays tchèque que pour le fait qu'il ait décidé d'y passer une grande partie de sa vie. Il s'agit notamment de sa découverte de Trilobites de Prague. L'œuvre de Barrande est immense. Ses textes, consacrés à la paléontologie, comptent près de 6000 pages.
Le supplément du journal rappelle en bref la vie et le parcours de ce paléontologue reconnu, né dans la famille d'un propriétaire foncier qui a fait ses études à l'école polytechnique pour obtenir plus tard le diplôme d'ingénieur civil. Nommé ingénieur des chemins de fer en Bohême, Joachim Barrande s'est déplacé dans les années 1830 en Bohême.
Selon la légende, c'est ici qu'il aurait trouvé son premier trilobite. Cette découverte l'aurait passionné à un tel point qu'il a alors décidé de consacrer aux fossiles le reste de sa vie. C'est en premier lieu en Bohême centrale qu'il aimait parcourir à pied et aux alentours de Prague, territoire recouvert par la mer à l'époque du Paléozoïque, que Barrande a fait ses principales découvertes. Le journal souligne cependant qu'il n'a certainement pas été le seul à s'intéresser à la faune préhistorique. À l'époque, la collecte de fossiles ne faisait pas seulement l'objet de l'intérêt des travaux scientifiques, mais c'était aussi le passe-temps favori des gens appartenant à des couches supérieures de la société. Par ailleurs, les trilobites tchèques étaient connus dans toute l'Europe.
Pour l'auteur de l'article, Barrande est un Christophe Colomb naviguant avec envergure vers le monde du passé pour étudier en détail la vie de la mer paléozoïque disparue il y a des centaines de millions d'années.
Pour pouvoir découvrir ce monde, écrit-il, il se promenait pendant de longues années dans les environs de Prague, afin d'étudier les couches géologiques et les fossiles. Il n'a pas hésité à offrir toute une fortune aux gens qui collectaient les fossiles pour lui, et à consacrer de grandes sommes à l'impression de ses livres. Son appartement, de 4 chambres, sur la place de Malastrana, rassemblé à une grotte remplie de fossiles, dans laquelle une modeste place seulement était réservée à sa table de travail.
Dans cet article, on peut lire également que l'accueil de Joachim Barrande dans le milieu tchèque n'a pas été aussi idyllique qu'on veut le prétendre.
La société de la petite bourgeoisie tchèque, secouée par des passions nationalistes, a été d'emblée confronté à un aristocrate qui pratiquait la science avec un sérieux sans précédent dans ces milieux. Ça devait être un véritable choc, car les Tchèques sont allés jusqu'à comploter avec des Allemands contre lui.
Barrande a consacré beaucoup de temps, d'énergie et de moyens à la théorie des colonies qui cherche à expliquer comment on peut rencontrer lors des fouilles des fossiles siluriens entourés par des couches comportant une faune plus ancienne située avec une faune géologiquement antérieure.
Sa théorie, qu'il a développée dans son ouvrage « Défense des colonies », a rencontré beaucoup de réactions négatives. Le géologue tchèque Jan Krejčí était l'adversaire le plus fervent de ces théories. Le paléontologue français ne l'a pourtant jamais abandonné.
Joachim Barrande, qui est mort en 1883, a fait don de l'ensemble de son œuvre au Musée national de Prague, ainsi comme l'écrit le supplément du quotidien Hospodářské noviny, les craintes de la société tchèque de voir l'ensemble des collections, travaux et moyens de Barrande envoyés à l'étranger ne se sont pas confirmées.
Les traces de Barrande en Bohême centrale et à Prague demeurent nombreuses. Le quartier de Barrandov, situé dans la partie sud de la capitale, porte son nom. Celui-ci a plus tard été rendu encore plus célèbre par les studios Barrandov. Construits à cet endroit et où ont été tournés la grande majorité des films tchèques. Le quartier de Barrandov représente en outre une des meilleures adresses de Prague. Le nom du pont qui s'appelle Barrandov et qui surplombe la rivière Vltava est également directement inspiré par le célèbre paléontologue français. Un musée et une statue dédiée à Joachim Barrande se trouvent dans la commune de Skrie, près de Prague. Et passons compromis à un autre sujet, une création de la dernière pièce de Václav Havel au Trázení, sur le départ, sera donnée très prochainement à Séoul, en Corée du Sud, et trois reprises sont d'ores et déjà prévues. À cette occasion, l'ex-président dissident a répondu à quelques questions de l'hebdomadaire Literárny Noviny, la gazette littéraire. Il s'est d'abord exprimé au sujet du théâtre de l'absurde.
Je pense que le théâtre de l'absurde a commencé à m'intéresser en 1958, pendant mon service militaire, quand j'ai eu l'occasion de lire une revue de théâtre qui apportait des informations détaillées sur ce thème. À l'époque, j'étais un connaisseur presque intime de l'œuvre de Franz Kafka, mais le théâtre de l'absurde m'était assez inconnu. En même temps, force m'est de constater que je n'ai jamais voulu être l'épigone d'un quelconque auteur en dépit de l'admiration que j'aurais pu avoir pour lui.
Plus loin, Václav Havel admet que ses pièces comprennent certains aspects autobiographiques. Pourtant, aucune de ces pièces ne peut être considérée comme une véritable autobiographie, il ajoute.
Dans chaque pièce, je mets à profit les expériences et les observations que j'ai faites ou qui m'ont inspiré. Les personnages de mes pièces ne reflètent pas des portraits fidèles des gens que je connais. Par exemple, le docteur Rieger, dans « Sur le départ », ce n'est pas moi-même quand on pourrait le croire, mais il incarne des caractéristiques et des comportements que j'ai pu dévoiler chez certaines personnes qui ont été contraintes de quitter leur fonction.
La pièce « Sur le départ » a eu sa première tchèque en mai 2008 au théâtre Archa à Prague, présentée 4 mois plus tard au théâtre Orange Tree à Londres. Elle a ensuite fait le tour de plusieurs scènes de théâtres étrangères. À présent, Václav Havel envisage de filmer sa pièce en se métamorphosant de dramaturge en réalisateur.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kilohertz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kilohertz and at 2230 hours on 7355 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kilohertz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours